Bienvenue à tous à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. J'aimerais souhaiter une bienvenue toute spéciale ce matin à ma maman qui est là avec sa sœur, ma tante Huguette. Alors, je suis très content de les voir. Soyez les bienvenus. À la fin du 19e siècle, un pasteur britannique et celui qui a été aussi le fondateur de l'armée du salut, William Booth, a dit ceci. Le plus grand danger du 20e siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Je pense que c'est facile de se rendre compte que plus d'un siècle plus tard, William Booth avait vu juste. Et si le 20e siècle lui a donné raison, eh bien, le 21e siècle est encore pire parce que maintenant, les hommes, la société en général, rejettent la vérité et continuent à se rebeller contre le Créateur. Mais maintenant, c'est encore pire parce que les gens se rebellent aussi contre la création elle-même. Avec une absurdité totale à part de ça, remettant même en question l'ordre naturel des choses. Au point qu'un homme, ce n'est pas nécessairement un homme. Puis une femme, ce n'est pas nécessairement une femme. Il y en a même qui sont les deux en même temps. Il y a aussi tout ce qui se passe avec les sujets qu'on appelle éthiques, comme la prostitution, de la légalisation, l'avortement, le suicide assisté, etc., toutes ces choses-là. C'est comme si... l'humanité, en quelque sorte, vous laisse partir à son compte puis dire à Dieu, « Écoute, Dieu, là, toi, tu l'as pas l'affaire, nous autres, on l'a l'affaire. On veut plus rien savoir de toi, puis on va établir maintenant nos propres règles. C'est à nous de décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. C'est pas à toi, Dieu. Même si tu es le Créateur, puis en fait, il y a probablement pas de Créateur, donc on fait ce qu'on veut. » C'est là qu'on est rendu, n'est-ce pas? Ça me fait penser un peu à ce qu'avait dit il y a 2800 ans le prophète Ésaïe aux enfants d'Israël qui se rebellaient contre Dieu. Ils bafouaient l'Éternel, ils bafouaient la loi de Dieu, puis ils faisaient absolument tout ce qu'ils voulaient. Mais Ésaïe a prophétisé de la part de Dieu, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Les enfants d'Israël n'ont pas écouté. Et de grands malheurs sont tombés sur eux. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit a rejeté Dieu et sera bientôt jugé pour ça. On sait, la parole le dit. Mais nous, les chrétiens, on ne peut rien faire contre le monde. Mais nous, les chrétiens, nous qui nous dit 1 Pierre 2,9 dans la parole de Dieu, sommes une race élue. Une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et pour lui, pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on adhère au courant de pensée du monde ou est-ce que l'on reste attaché fidèlement à la parole de Dieu? On va tourner en 2 Timothée 4. Et pendant que vous tournez, je vais prier. Alors, Seigneur Jésus, je te prie d'être avec moi ce matin pour bien amener le message que tu as mis sur mon cœur. Peut-être un message dur à certains égards, Seigneur, mais ce n'est pas mon intention d'être dur, de manquer de grâce, de manquer d'amour, Seigneur, mais je veux simplement aborder un aspect de ta parole qui est important. Et qui, je crois, les chrétiens ne doivent pas perdre de vue aujourd'hui. Alors, Seigneur, sois avec moi que je puisse parler de ta part ce matin. Prends toute la place en moi, Seigneur Dieu, par ton esprit, et parle à nos cœurs. Et je m'inclus là-dedans, parce que moi aussi, ça me parle. Alors, Seigneur, bénis cette assemblée ce matin, ainsi que ta parole dans nos cœurs. Amen. Avant de lire, en Actes 20, Acte 20, 27, Paul avait dit aux anciens d'Éphèse, Paul était au retour de son dernier voyage et là, il retournait à Jérusalem et en passant dans le coin d'Éphèse, donc une petite ville à côté, un petit village à côté. Il rassemble ses amis, les anciens d'Éphèse, et il leur dit ceci. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Et ce matin, on va voir que c'est aussi ce qu'il voulait que Timothée fasse lui aussi. Timothée, c'était son apprenti. Hein? Et il voulait que Timothée prêche la parole de Dieu avec la même ferveur, avec la même fidélité que lui, Paul, avait fait durant sa vie. Mais il voulait aussi que Timothée sache qu'il prêche devant Dieu, donc de ne pas craindre les hommes, mais de craindre Dieu. Et il voulait que Timothée prêche sans relâche. Donc, le premier point qu'on va voir ce matin, c'est que Paul va dire à Timothée de prêcher devant Dieu. Mais juste pour une mise en contexte, 2 Timothée, c'est la dernière épître que l'apôtre Paul a écrite peu de temps avant de mourir, peut-être vers l'an 66-67. Il était alors dans une prison romaine et il savait que sa fin était proche. Il dit en 2 Timothée 4-6, « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. » Or, Paul savait qu'il allait mourir bientôt. Alors, quand il écrit cette épître, c'est un peu comme une lettre d'adieu qu'il fait à Timothée. Et aussi comme on pourrait dire une sorte de testament spirituel qu'il lui adresse pour le fortifier et l'encourager à bien faire son ministère malgré les temps difficiles qu'il vivait. Et Paul exhorte très sérieusement Timothée à prêcher la parole avec fidélité et intégrité devant le Seigneur. Et il lui dit pourquoi. Lisons ensemble 2 Timothée 4, les versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ce que l'apôtre Paul dit à Timothée ici est très sérieux, au verset 1. Il dit, « Je t'en conjure. » Autrement dit, je t'en supplie solennellement et avec insistance. Les mots qu'il emploie sont très pesants. « Je t'en conjure devant Jésus-Christ, alors pas devant n'importe qui, mais devant le Seigneur. Prêche la parole. » Paul, qui avait été fidèle dans son ministère de prédication devant Dieu, voulait que Timothée fasse la même chose, prêcher fidèlement la parole de Dieu et devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est facile aujourd'hui, ça, parce que ça déplaît aux gens. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Les gens veulent leur entendre ce qui leur plaît, mais Paul dit à Timothée, prêche fidèlement la parole devant Dieu. Vous savez, le ministère de la parole, de prédication, de l'enseignement, de la Bible, de la parole de Dieu, ça ne doit pas être fait n'importe comment. Parce que l'apôtre Pierre, en 1 Pierre 4:11, nous dit, « Si quelqu'un parle, sous-entendu la prédication, l'enseignement, alors si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, pas comme disant n'importe quoi, mais comme annonçant les oracles de Dieu. Alors, prêcher, c'est parler de la part de Dieu. C'est enseigner la pensée de Dieu. Et c'est faire connaître Dieu aux gens comme il est vraiment, et pas comme les gens voudraient qu'il soit. Puis même moi, si j'enseigne la parole, je ne dois pas dire, voici, ben je vais changer un petit peu le texte, parce que dans le fond, c'est dur, puis ça va passer mieux si je dis que Dieu est comme ça, plutôt que d'enseigner la vérité. Ben je ne dois pas faire ça. Je dois être intègre devant le Seigneur. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous dit qu'elle doit être prêchée fidèlement et devant le Seigneur. Et qu'elle doit être reçue de la même façon, fidèlement et devant le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient que le Seigneur, c'est le bon Dieu, comme si c'était un Dieu bonasse. On peut faire n'importe quoi, puis un peu comme Pasteur Yvan disait tantôt, hein, « Ah, ben, je vais m'arranger avec, mais j'arrive. » Je suis désolé, mais c'est pas le même que ça va se passer. Ce qui va se passer, c'est ce que Dieu a décrété. Alors, on ne doit pas le présenter de n'importe quelle façon. On doit présenter Dieu comme il est. J'avais entendu l'histoire à un moment donné d'un prédicateur qui prêchait, puis il y a un homme qui s'est élevé dans la salle, puis il dit, « Moi, mon Dieu, il n'est pas comme ça. » Le prédicateur, il a dit, « Peut-être que ton Dieu n'est pas comme ça, mais le Dieu de la parole, lui, est comme ça. » On ne doit pas prêcher la parole de Dieu n'importe comment. On doit la prêcher comme Dieu se révèle. Alors, le prédicateur doit être conscient que sa responsabilité, c'est de prêcher fidèlement la parole. Parce que ce qu'il va enseigner, ça va transmettre une connaissance de Dieu et que cette connaissance-là va influencer la vie des gens qui l'entendent. Va influencer aussi le comportement des croyants et des gens en général envers Dieu. Alors, la prédication ne doit pas être basée sur des pensées humaines ou sur des révélations spéciales extérieures à la Bible. Il y en a plein qui disent ça, hein? Ah, mais j'ai eu une révélation spéciale. Dieu m'a dit que... Attention! Peut-être que c'est une nouvelle révélation pour lui, mais si c'est de Dieu, c'est déjà en accord avec la Bible. Alors, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de parole de Dieu en dehors de la Bible. La parole de Dieu, elle est complète, d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Et il n'y a rien à y ajouter, puis il n'y a rien à y enlever. Elle est complète. Toute la révélation que Dieu a voulu que l'on sache à son sujet, elle est là-dedans. Puis il n'en a pas oublié en cours de route. Alors c'est ça qu'il faut prêcher, il faut le prêcher fidèlement, parce que c'est le message que Dieu a pour chacun de nous. Deux versets plus haut de ce qu'on vient de lire, en 2 Timothée 3, 16 et 17, il est écrit que la parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, prêcher la parole de Dieu, ça doit être fait fidèlement parce que ça va être lourd de conséquences. Jacques, le demi-frère du Seigneur, a dit en Jacques 3:1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il y a souvent des gens qui disent, « Ah, moi, j'aimerais ça enlever tel passage de la parole. » Moi, c'est celui-là que j'aimerais enlever. Parce que de prêcher, la parole de Dieu qui dit que je vais être jugé plus sévèrement. Mais je ne peux pas l'enlever. Puis c'est correct demain. Il faut juste que j'en sois conscient, puis que je me laisse guider par le Saint-Esprit à prêcher fidèlement la parole de Dieu, n'en déplaise aux gens. Évidemment, il y a une façon de faire, là. Il ne faut pas être dur, là, puis malmener les gens pour rien. Il faut le faire avec grâce, avec amour. En pleurant, s'il le faut. On doit être authentique et pas mettre un joug, un fardeau sur les gens, mais prêcher fidèlement la parole de Dieu. Et ce que les gens en font, c'est à eux que ça appartient. Puis c'est pareil pour moi, là, ce que je lis dans la parole, là. Quand je prépare une prédication, c'est à moi que le Seigneur parle premièrement. Alors, je dois l'appliquer pour moi-même, je dois l'assimiler, puis ça ne fait pas toujours mon affaire. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Le prédicateur doit prêcher la parole de Dieu en étant conscient qu'il parle devant Dieu. Et c'est ce que Paul ici disait à Timothée. Tu parles devant Dieu. Alors, prêche la parole et pas autre chose, sachant qu'un jour... Dieu va te redemander des comptes de tout ce que tu dis, mon Timothée. Les prédicateurs, les enseignants de la parole de Dieu vont être jugés plus sévèrement que les autres. C'est ce que la Bible dit. Paul va dire, il avait dit, chronologiquement c'était dans le passé, mais en Éphésiens 6, 19 et 20, « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Paul était encore en prison quand il a écrit Éphésiens. Mais ses chaînes ne l'ont pas empêché de proclamer la vérité. Et il demandait même aux croyants de prier pour lui afin qu'il en parle comme il doit en parler, c'est-à-dire avec fidélité et vérité devant le Seigneur. Alors, frères et sœurs, prions pour ceux qui enseignent la parole. Priez pour vos pasteurs. Priez même pour les enseignants, les enseignantes d'école du dimanche, les groupes de dames, toutes les occasions où la parole de Dieu est prêchée. Priez pour qu'elle le soit fidèlement, avec vérité et avec grâce aussi. Parce que c'est devant Dieu que la parole doit être prêchée. Et je dis ça parce que si parfois vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez peut-être injuste d'entendre ce que le prédicateur dit, eh bien, soyons conscients qu'il a la responsabilité de le faire intégralement. Et non pas pour plaire aux gens, mais pour plaire à Dieu parce qu'il prêche, il enseigne devant Dieu. Le verset 2, relisons 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, voyez-vous, le message ne doit pas changer. La façon de le faire doit être adaptée, je crois. Il ne faut pas paraître légaliste, moralisateur ou quoi que ce soit, hein? Mais de le faire avec toute douceur et en instruisant. Et ici, Paul insiste au début du verset pour que Timothée prêche la parole et pas autre chose, parce que c'est par elle que Dieu se révèle. C'est par la parole de Dieu qu'on connaît la vérité. La Bible le déclare d'elle-même. Il y a beaucoup de passages, là, j'en ai mis deux, mais il y en a d'autres. Le psaume 119, 160 nous dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois sont de ta justice sont éternelles. » Jean 17, 17 dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Tu sais, il y a des gens qui disent, « Ah, la parole, la Bible, il faut t'en prendre puis faut t'en laisser. » Ah ouais? Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait pour le savoir? Parce que la Bible a dit que c'est toute la parole qui est la vérité. Alors, je ne peux pas en prendre une partie selon ce que ça fait mon affaire puis rejeter le reste. Parce que là, on n'y arrivera pas. On va nager sur une mer d'incertitude, puis au final, on va tout flocher parce que ce n'est pas fiable. Alors, la parole de Dieu, il faut la prendre dans son intégralité. Parce qu'elle est le fondement de la vérité. Elle est même la vérité. Une fois, j'ai entendu, il y a plusieurs années de ça, un pasteur prêcher, et ça m'avait totalement... En tout cas, je n'étais pas d'accord. Lui, il disait que toute vérité pour être de Dieu n'est pas obligatoirement dans la Bible. Évidemment, c'est faux. C'est faux parce que la Bible, c'est la révélation que Dieu nous a donnée de lui-même. Alors, c'est en elle que se trouve la vérité. Mais l'affaire, c'est que, je ne vous donnerai pas les détails, mais ce que ce pasteur-là enseignait, c'était totalement ridicule. Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est le mot le plus faible que j'ai pu trouver. C'était totalement ridicule. Et comme il ne pouvait pas appuyer ce qu'il disait sur la Bible, ben, il a déclaré que toute vérité pour être de Dieu n'est pas obligatoirement dans la Bible. C'est trop facile de dire ça. Mais il y a beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants qui le font. Et malheureusement, beaucoup de gens se font tromper à cause de ça. Avant de me convertir, je fréquentais... une secte chrétienne qui avait à sa tête un certain prophète qui est décédé maintenant, lui qui disait qu'il était le prophète du millénium. Dénommé William Branham. Lui prétendait que si on ne suivait pas son enseignement à lui et qu'à lui seulement, on ne pouvait pas être sauvé. Ah, c'est troublant, ça. Et là, je ne dis pas ça pour les dénigrer. Là. C'est pas mon habitude. C'est pas. Ce que je dis, c'est eux qui l'enseignent. Si vous leur demandez, ils vont valider. Là. Alors, c'est pas. Je ne veux pas dénigrer personne. Mais vous avez le droit de savoir. De toute façon, eux autres, ils l'enseignent à qui veulent l'entendre. Ils disent que si tu ne suis pas l'enseignement de Branham, tu ne peux pas te sauver. À un moment donné, j'ai quitté ce groupe-là et puis je suis retourné dans le monde et quelques années plus tard, je me suis finalement converti dans une église évangélique. Et là, je suis retourné voir le gars qui m'avait emmené là et je lui avais demandé ceci. Pourquoi on ne peut pas être sauvé si on ne croit pas William Branham alors que la Bible dit que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ? Eh bien, il m'a répondu, ben c'est vrai que le seul médiateur entre Jésus-Christ, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Mais il dit, entre Jésus et les hommes, ça prend Branham. Mais l'affaire que c'est que la parole de Dieu ne dit pas ça. Ce que la parole de Dieu dit, c'est que le salut est en Jésus seul. On n'a besoin que de lui et de rien d'autre. On n'a pas besoin d'une religion. On n'a pas besoin d'un sacrement. On n'a pas besoin d'une bonne vie. On n'a pas besoin de donner des millions à l'œuvre. On n'a pas besoin de passer notre vie à monter et à descendre les marches d'une église sur nos genoux. Rien de ça. On n'a pas besoin de respecter des fêtes comme toutes les fêtes, le sabbat, certains croient qu'il faut... Non! C'est Jésus et Jésus seul qui sauve. Et la vérité est en lui. Le salut n'est qu'en Jésus seul. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? La vérité est en Jésus seul. Alors, ne laissez rien ni personne mettre qui que ce soit ou quoi que ce soit entre vous et le Seigneur concernant le salut. C'est de l'erreur, c'est du mensonge. La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une religion, c'est rien d'autre. C'est Jésus. C'est Jésus et Jésus seul. Et c'est pour ça que c'est à lui qu'il faut aller. Je veux relever ici que le fait que que la vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est aussi la seule norme en matière de foi et de conduite. Ici, on croit à autre chose, alors on ouvre la porte à se faire balloter à tout vent de doctrine. C'est Jésus seul qui sauve. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Certainement que dans l'éternité, quand on va être avec le Seigneur, il pourra nous révéler d'autres choses sur lui, là. Je veux dire, je ne veux pas le mettre dans une boîte, là, c'est pas ça. Mais ce que Dieu a jugé bon que nous, on sache, ce que Dieu a jugé bon de révéler aux gens, il l'a mis dans la Bible. Puis de toute façon, on n'est même pas capable de l'appliquer, alors ça ne servirait à rien qu'il nous en donne d'autres, là. On a déjà pas mal de misère avec ce qu'on sait déjà, là. Ça fait que ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Évidemment, on apprend aussi à connaître le Seigneur, là, par notre marche chrétienne. Nos expériences de vie avec lui, on apprend à connaître des choses sur Dieu, sur nous-mêmes, sur la vie chrétienne. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on apprend, c'est déjà dans la Bible, d'une manière ou d'une autre. Là. Alors, si je crois découvrir une nouvelle vérité sur Dieu, ça doit être déjà dans la parole de Dieu et surtout en accord avec ce qu'elle révèle. Rien d'extra-biblique, dans le sens qui est en dehors de ça, là. Alors, si quelqu'un veut vous enseigner une nouvelle vérité biblique, mais qui n'est pas dans la Bible, parce que toute vérité de Dieu, soi-disant, n'est pas dans la Bible, écoutez-le pas. C'est un mensonge. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Donc, Paul exhorte Timothée à prêcher la parole de Dieu et devant Dieu et aussi en toute vérité, donc fidèlement. Parce que d'une certaine façon, quand il dit « prêche la parole, reprends, censure, exhorte en instruisant », ben il met l'accent sur le fait de prêcher tout le conseil de Dieu sans en rien cacher, selon la circonstance qui se présente, évidemment. Et c'est ce que Paul avait fait lui-même. Paul... Il l'avait dit en Acte 20, quand il a parlé à ses amis les anciens d'Éphèse. « Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Alors, la parole de Dieu doit être prêchée devant Dieu et doit être prêchée fidèlement. Une fois, un pasteur qui m'avait dit que dans son église, lui, il ne prêchait que la grâce et l'amour de Dieu et qu'il laissait au Saint-Esprit le soin de parler des autres choses aux croyants. Ben, c'est certain que ça rend populaire, c'est certain que c'est flatteur, mais prêcher la parole de Dieu, c'est pas seulement parler de l'amour et de la grâce de Dieu. Oui, il faut le faire, c'est important. Puis je pense que quand on enseigne quelque chose de dur, on devrait toujours ramener ça quand même à l'amour puis à la grâce de Dieu, puis au fait que Dieu pardonne. Puis bon, mais ça ne doit pas nous empêcher d'enseigner tout le conseil de Dieu, donc même les vérités qui sont peut-être un peu plus dures à passer des fois. Ça implique des fois qu'on doit reprendre ceux qui agissent mal, réfuter le mensonge, dénoncer le péché, etc., mais le faire avec une bonne attitude, comme 2 Timothée 4:2, avec toute douceur et en instruisant. À plusieurs reprises, il y a des gens qui sont venus me voir, des chrétiens. Vous êtes Tony, parce que vous savez, j'annonce l'Évangile pour le salut dans chacune de mes prédications. Mais à 3 reprises, des chrétiens sont venus me voir et ont dit, Tony, tu peux-tu arrêter d'annoncer l'Évangile? Ça nous dérange. Ouais, 3 fois en 16 ans de ministère. Je trouve ça malheureux. Je trouve ça bien malheureux. Puis la réponse est toujours la même. Je suis désolé, mais si ça ne te plaît pas, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu as à faire parce que moi, je n'arrêterai pas. Tant que Dieu va me confier le ministère de la parole, je vais prêcher la vérité puis je vais prêcher l'Évangile. Oui, je vais essayer de le faire avec grâce et amour. Là. Je ne suis pas du genre à vouloir taper sur les gens à grands coups de Bible. Là. Mais on est en droit de savoir, parce que quand on va arriver de l'autre côté, on va avoir des comptes à rendre à Dieu. Alors, mieux vaut en savoir le plus possible pour avoir le moins de comptes à rendre possible. Oui, Dieu connaît les cœurs, puis Dieu connaît tout ça. Là. Mais ma responsabilité, celle de tous les prédicateurs, c'est d'enseigner la vérité, de le faire devant Dieu et de le faire fidèlement selon la parole de Dieu et pas selon autre chose. Alors, dans les versets 3 et 4, Paul nous donne ici la raison de cette exhortation-là sérieuse à prêcher fidèlement la vérité devant Dieu. Lisons 2 Timothée 4, les versets 3 et 4. Voici la raison. Car il viendra un temps. Car, le car, c'est un connecteur logique dans le texte. Donc, ça vient lier ce qui suit à ce qui était avant. Donc, Paul dit à Timothée d'enseigner fidèlement devant le Seigneur. Car il viendra un temps, nous dit le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Docteurs, c'est dans le sens de enseignants ici, là. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vous savez, c'est quoi des fables, hein? C'est des histoires. Histoires inventées. Des gens qui ne supportent pas la saine doctrine, là, il y en a toujours eu puis il va toujours en avoir. Mais quand Paul écrit « Il viendra un temps », il parle d'une époque où tout ça va s'intensifier. D'ailleurs, au début du chapitre 3, Paul emploie une autre expression pour parler de la même époque. C'est l'expression « les derniers jours ». Lisons 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Évidemment, il y en a toujours eu de ça. Mais quand Paul parle des derniers jours, et qu'il dit quand il viendra un temps, il parle de quelque chose qui va s'intensifier, une époque où ça va s'intensifier. Et je crois que nous, qui sommes plus près de la fin que jamais, on est beaucoup plus là-dedans que ça n'a jamais été. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est accepté. Parce qu'on met des mots sur le péché. Ah, c'est de l'intégrationnisme. On intègre les gens. C'est de la tolérance. Bon, tous les mouvements woke là, et toutes ces affaires-là. Hein? Ça ressemble beaucoup à ça aujourd'hui. Mais c'est certain que Paul croyait certainement que ce qu'il prophétisait ici arriverait assez rapidement après sa mort. Puisqu'il dit à Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc, Paul, je pense pas qu'il avait en vue 2000 ans plus tard. Je pense qu'il pensait que ça arriverait beaucoup plus rapidement. Parce qu'il dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et il fait la même recommandation en 2 Timothée 4:5, quand il dit, « Mais toi, » tu sais, contrairement à ce qu'il vient de dire là dans les versets précédents, « Mais toi, » sois sobre en toutes choses. Alors, Paul prophétisait, mais il savait que ça arriverait rapidement. Et dans les deux cas, il avait raison parce que ça a toujours existé. Mais ce que les autres ont fait à leur époque, ce n'est pas notre affaire. C'est ce que nous on fait aujourd'hui, à notre époque, qui est important. Bref, théologiquement parlant, les derniers jours ont commencé à la première venue de Jésus. Et ils vont prendre fin à son retour. Alors, nous sommes dans les derniers jours, et ce temps qui viendra, c'est le nôtre. Parce que nous sommes plus près de jamais, plus près que jamais du retour du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur va revenir, il est venu une fois, puis il va revenir. Il va revenir pour prendre l'Église avec lui. Tous les croyants du monde, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui ont fait ce pas de foi d'aller à Jésus puis de dire, « Seigneur, je te confesse que je suis un pécheur, que j'ai besoin que mes péchés soient pardonnés pour entrer au ciel. » C'est pas une religion qui me sauve, c'est pas rien, c'est toi, Seigneur, et toi seul. Et je te veux, je veux faire de toi le sauveur de mon âme puis le Seigneur de ma vie. Alors, tous ceux qui ont fait ça depuis 2000 ans d'histoire de l'Église font partie de l'Église avec un grand E. Et un jour, Jésus va revenir, il nous le promet à plusieurs endroits dans la parole, chercher son Église pour l'emmener avec lui. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et suite à ça, ça va être l'Apocalypse. Le Dieu, Jésus va juger le monde. Bref, les derniers jours, c'est de sa première venue jusqu'à son retour. Mais qu'on soit au début ou à la fin des derniers jours, ce que Paul relève ici, c'est l'importance que la parole de Dieu soit prêchée sans relâche. Parce que sans la parole de Dieu, qui est le fondement de la vérité, c'est-à-dire que c'est sur elle qu'on peut apprendre des choses sur Dieu, c'est elle qui nous dit qu'est-ce qui va arriver réellement après la mort. Oh, on peut avoir toutes sortes d'affaires, on peut croire, on ne peut pas croire. Oui, mais on se base sur quoi? On se base sur ce qu'on pense, sur ce qu'on veut penser, sur le Dieu qu'on s'est imaginé? C'est sur la parole de Dieu qu'on doit être basé, et sur rien d'autre. Parce que c'est sur cette base-là qu'on va être jugé, sur la révélation écrite que Dieu a donnée aux hommes. La Bible, et il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est elle le fondement de la vérité. C'est elle aussi qui est la norme de conduite instituée par Dieu. Et sans la Bible, le monde est laissé à lui-même et à la merci du péché. Et malheureusement, d'innombrables âmes sont vouées à la perdition éternelle. Donc, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ici, l'expression « les hommes », ça désigne avant tout les incroyants. Donc, ceux qui ne sont pas des chrétiens ni de nouveau, qui par nature s'opposent à la vérité divine. La Bible dit en 1 Corinthiens 2,14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et on peut juger de rien spirituellement selon Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit qui nous habite. Parce que dans l'Épître aux Romains, Paul écrira que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Alors, ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Parce que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La plupart des gens, vous savez, ne veulent pas entendre parler de Dieu parce que c'est une folie. Soit ils ne croient pas du tout, soit ils trouvent ça ridicule, soit ils disent, ah, c'est des vieilles affaires de grand-mère, ça-là. Hein? Mais il y en a d'autres qui aiment entendre parler de Dieu et qui fréquentent les églises, mais qui ne sont pas régénérés spirituellement. Ils ont un petit côté religieux, mais qui n'aiment pas se faire dire qu'ils sont des pécheurs et que leur seule planche de salut, c'est Jésus. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas les mots « péché », « repentance », « enfer », etc. Ils ne supportent pas la saine doctrine. La saine doctrine qui mène à la repentance et au salut en Jésus-Christ. Il y a 3 ou 4 ans de ça, j'étais quelque part dans un chalet avec Nathalie, puis j'étais assis sur le balcon, et puis il passe une dame qui était dans un petit chalet pas loin, et puis là, elle viroyait, puis elle dit, m'excuse, elle dit, j'ai su que vous étiez pasteur. Je dis, ouais. Elle dit, peux-tu vous poser des questions? Ben, certainement. J'aime toujours ça. Alors, on s'est mis à parler, et puis je lui ai annoncé l'Évangile. Je lui ai expliqué que il y a juste Jésus qui pouvait la sauver, puis qu'il fallait qu'elle aille. Bon, tout ça. Et au bout de la discussion, au bout de 15-20 minutes de discussion, la dame pleurait carrément. Elle pleurait. Elle avait un genou à terre, là, puis elle pleurait. Puis savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, je veux te sauver de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Mais pas par la croix de Jésus. Ça a fini comme ça. Malheureusement, on ne peut pas être sauvé sans la croix de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait que ça la retenait tant que ça? Je lui avais dit, oui, mais lâche, cède, non. Je veux te sauver, mais pas par Jésus, pas par sa croix, je ne veux rien savoir de ça. C'est triste, c'est malheureux. Il y a d'autres personnes, ça peut être des croyants aussi, qui recherchent avant tout un divertissement religieux quand ils vont dans les églises. Ils veulent passer un bon moment, un bon temps. Ils sont attirés parfois par toutes sortes de manifestations bizarres, et je dirais même occultes dans certains cas, ou par un spectacle en guise de louange. On veut des bennes, on veut que ça brasse. Ils aiment bien entendre parler de l'Antéchrist, des démons, de la fin du monde, de l'Apocalypse, etc. Mais un message sur la personne de Jésus, sur la majesté de Dieu, sur la sanctification ou sur l'obéissance à Christ, ça les ennuie à mourir. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Il y en a d'autres encore qui adhèrent à tous ces faux docteurs, ces faux enseignants qui ont beaucoup de charisme et d'éloquence. Il y en a qui remplissent des stades complets, là. Hein? J'en ai regardé quelquefois quelques-uns. Il y en a certains qui font un bon job, bon ministère, mais il y en a d'autres, là. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ils enseignent des hérésies, mais ils le font si bien que les gens détournent l'oreille de la vérité et se tournent vers des fables. C'est-à-dire des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Alors, qui que vous soyez, faites attention à ces choses-là. Ne tombez pas dans ce piège-là, parce que vous allez être la proie spirituelle facile pour les faux docteurs et les gourous. La Bible nous dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. » Vous savez, il n'y a qu'un pas entre l'étape des oreilles qui démangent et celle de se détourner de la vérité. Il n'y a qu'un pas entre les deux. Alors attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Je vais mettre à l'écran un commentaire du commentateur biblique John MacArthur sur 2 Timothée 4. J'ai trouvé ça très intéressant, puis je n'aurais pas fait mieux, alors je vais le lire. Maintes églises aujourd'hui sont bondées d'individus ayant la démangeaison d'entendre des fables qui prônent une foi facile, aux nombreux accents d'égocentrisme et de la soi-disant pensée positive. Ce qu'ils veulent, c'est que leur ego soit nourri et leur péché approuvé, et non que leur cœur soit purifié et leur âme sauvée. Ils souhaitent seulement se sentir bien et non devenir quelqu'un de bien. Le malheur, c'est que ces fables servent à séparer les gens spirituellement du véritable évangile et à les éloigner encore davantage du Seigneur. Frères et sœurs, il viendra un temps où peut-être vous devrez choisir une église parce que vous êtes un nouveau croyant ou parce que vous déménagez ou parce que, bon, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on veut changer d'église ou on doit se trouver une église. Ma question, c'est sur quelle base allez-vous le faire? La louange? Ah, oh, wow, hey, il est ben de louange dans cette église-là, c'est vraiment extraordinaire. Allez-vous le faire sur le groupe ethnique? Ah, moi je m'assemble là, avec les gens là, qui sont comme moi, là, puis qui viennent de la même place que moi, puis qu'on pense tout pareil, puis OK. Allez-vous le faire sur la popularité du prédicateur? Ah, lui, là, il a du charisme. Hein? Il parle-tu bien? Hein? On ne sait pas trop ce qu'il dit vraiment, mais il parle bien. Il attire des gens. Allez-vous vous fier sur la grosseur de l'Église? Sur les programmes et les services offerts, etc., etc., etc. Et vous savez, je ne dis pas que ces choses-là sont mal. C'est pas mal en soi, là, tout ce que je viens de nommer. Là. Mais, vous savez, on a le droit d'avoir nos préférences, mais nos préférences ne devraient jamais passer avant la saine doctrine. La priorité dans la recherche d'une église, ça doit être de choisir une église christocentrique. Christocentrique, c'est formé de deux mots, Christ et centre. Donc, une église dans laquelle Christ est au centre. Ça, c'est un critère de choix, un critère mature spirituellement. Et une église aussi où la parole de Dieu est fidèlement proclamée et où elle est la seule autorité en matière de foi et de conduite. Alors, le premier critère dans la recherche d'une église, c'est assurez-vous qu'elle soit christocentrique, donc c'est Christ qui est loué, adoré, prié, acclamé, proclamé, et que l'autorité de cette Église-là soit la Bible et rien d'autre. C'est le premier critère. Quand j'étais à Québec, il y avait une église quelque part dans la région. J'avais entendu là, que les anciens de l'Église avaient pris la décision formelle, tous les prédicateurs, les pasteurs ne devaient plus dans leur prédication prononcer les mots péché, repentance ou enfer. Ça fait pas longtemps. Ça fait 2 ans, 3 ans, mettons. Ils ne voulaient plus ça parce que ça déplaît aux gens. Leur motivation était clairement de grossir l'assistance, avoir un membership. Alors, ils voulaient prêcher ce que les gens voulaient entendre. C'est la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais si vous êtes un chrétien sérieux, n'allez pas dans une église comme ça. Parce que ça voudrait dire que vous avez la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tombez pas dans ce piège-là. Il viendra un temps où le prédicateur va peut-être dire quelque chose qui ne fait pas votre affaire. Comment est-ce que vous allez réagir? Allez-vous lui envoyer un email de bêtises? C'est populaire aujourd'hui, ça. Allez-vous le calomnier? Allez-vous juste changer d'église? Vous savez, peut-être qu'il a raison dans ce qu'il dit, ou peut-être qu'il a tort, peut-être qu'il a carrément tort. Mais s'il a tort, là, au lieu de faire le bébé lala, là, pourquoi vous n'allez pas le voir et dire, écoute, ce que tu as dit un matin, là, ça m'a percuté pour telle raison. Parlez-en avec lui, peut-être que ça va se dénouer, puis peut-être qu'il a tort. Là. Mais admettons qu'il a raison. C'est quoi notre façon de réagir à ce qu'on entend? On va bouder? On va changer d'église? Moi, je pense que si le chapeau nous fait, on doit le mettre. Vous savez, c'est pas facile là, pour un prédicateur là, d'annoncer tout le conseil de Dieu parce qu'il y a des sujets qui sont délicats des fois. Il y en a d'autres qui sont percutants. Mais il faut le faire. Je pense qu'il faut redoubler d'ardeur et de prière à ce que le Seigneur nous dirige de le faire avec grâce et amour. Mais quand même, on doit le faire. Et si le chapeau nous fait, ben, mettons-le, puis laissons le Seigneur nous parler à travers lui. Il viendra un temps aussi où nos propres désirs, amorcés par le péché, bien souvent, nous porteront vers ce qui est charnel. À ce moment-là, bien, faisons attention de ne pas laisser la vérité de Dieu, de ne pas la délaisser en nous justifiant nous-mêmes ou en justifiant notre propre péché, parce que ce serait de croire des fables. Des fables qui nous feront tomber dans le piège du diable, qui ne demandent pas mieux que de ravager notre vie. Il viendra un temps où notre foi sera éprouvée. C'est inévitable. Peut-être par le doute, par l'épreuve, par la maladie, par la persécution ou n'importe quelle autre raison. À ce moment-là, ben, mettons en pratique ce que Paul dit à Timothée au verset 5. Sois sobre, c'est-à-dire vigilant, garde la tête froide, reste en plein contrôle de toi-même. Donc, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Quelle que soit la difficulté, restons attachés au Seigneur et à la parole de Dieu. Dieu, c'est le Dieu de toute consolation et en lui, nous avons la plus merveilleuse des espérances. Alors, restons attachés fidèlement à lui. Il viendra un temps où nous aurons, pour une raison ou pour une autre, la démangeaison d'entendre des choses agréables. À ce moment-là, frères et sœurs, ne détournons pas l'oreille de la vérité, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable qui nous dit 1 Pierre 5,8 est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mes frères et sœurs, il viendra un temps où nous devrons tous comparaître au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal qui va juger le salut, mais notre vie chrétienne. C'est un tribunal pour les croyants, le tribunal de Christ. On voit ça en 2 Corinthiens 5,10. Alors, étant donné qu'on va tous comparaître au tribunal de Christ, vivons notre vie d'une manière digne de la vocation à laquelle nous avons été appelés, c'est-à-dire la sainteté. Et pour y arriver, ben, il faut rester à la parole de Dieu, attaché à la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre meilleur moyen. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi, dont Jésus n'est pas le Sauveur. Peut-être que tu n'as jamais fait ce pas de foi de te prosterner à la croix devant Jésus, puis dire, mes péchés me séparent de toi, puis j'ai besoin de ton pardon pour aller au ciel. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Mais il viendra un temps où tu devras le faire parce que toi aussi, tu vas avoir des comptes à rendre à Dieu. La Bible dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Alors, Dieu va juger les gens par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Alors, si je ne suis pas en Jésus-Christ, c'est-à-dire que si je n'ai pas donné ma vie à Christ, si je ne lui ai pas personnellement demandé de sauver mon âme, alors je vais être jugé pour l'éternité. Parce qu'il n'y a que ceux qui appartiennent à Christ qui vont entrer au ciel. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu, c'est la révélation que Dieu lui-même nous a donnée. Alors, c'est sur cette base-là qu'on va être jugé. Alors, qui que tu sois, ne base pas ton salut sur des choses agréables à entendre, mais sur la parole de Dieu. Et si tu ne l'as pas fait, j'aimerais t'inviter à le faire maintenant. Dans ton cœur, demande à Jésus de sauver ton âme. Confesse-lui que tu es un pécheur, une pécheresse. Dis-lui que tu crois que lui seul peut te sauver, pas une religion, pas des sacrements, pas une bonne vie, pas une philosophie ou rien d'autre, mais que lui seul, parce que le salut est en Jésus seul. n'est pas un prophète qui va te sauver. C'est Jésus. Alors, va à lui, dis-lui que tu crois ça et que tu veux qu'il sauve ton âme. Dis-lui dans tes propres mots, laisse monter ce qu'il y a sur ton cœur vers lui. Et demande-lui de te couvrir de sa grâce. Comme ça, tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas pouvoir entrer au ciel. Puis quand Jésus va revenir, parce qu'il va revenir, parce qu'il l'a promis, quand il va revenir pour enlever l'Église, tu en feras partie. Tu ne seras pas de ceux qui vont rester pour être jugés avec le monde. En conclusion, l'exhortation que Paul fait à Timothée de rester fidèle aux Écritures, de prêcher devant Dieu et de le faire sans relâche, il l'adresse aussi à tous les prédicateurs. Il en parle dans l'épître à Tite. Il dit, « Car il faut que l'évêque, c'est un ancien, un pasteur, bon, c'est différents mots qui parlent de la même chose, là. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Pas des fables, pas des révélations spéciales, pas un soi-disant prophète. Attaché à la vraie parole, parce qu'il y en a juste une, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et même si on n'est pas prédicateur, l'apôtre Jacques, le demi-frère de Jésus, a dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ne tombez pas dans des fables. Ne soyons pas de ceux qui, dans notre génération, vont contribuer à ce que le christianisme devienne, comme le disait William Booth au début, une religion sans Saint-Esprit. Des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Puis moi, je pourrais rajouter des prédications sans parler du péché, de l'enfer et de la repentance. Encourageons-nous, au contraire, car il viendra un temps, et ce temps est proche, où Jésus-Christ va revenir chercher son Église et récompenser tous ceux qui lui auront resté fidèles. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui parfois peut être dure, mais qui nous fait tellement de bien. Seigneur Jésus, bénis ta parole dans nos cœurs, puis amène-nous peut-être que ce matin, dans ce que j'ai parlé, on a été touché par un aspect ou par un autre, Seigneur. Mais qu'on sache, Seigneur, que ce qui nous ébranle, ce qui nous touche, qu'on puisse le mettre devant toi à la lumière de ta sainte parole, afin de savoir, Seigneur Jésus, si on doit s'y soumettre, si le chapeau nous fait qu'on puisse le mettre. Et Seigneur, on veut te remercier pour l'espérance glorieuse de la vie éternelle que nous avons en toi, car il viendra un temps où nous serons réunis avec toi, et ce sera la plus merveilleuse des espérances. Amen.